7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Nous parlons éducation comme chaque vendredi. Et aujourd'hui, comment préparer les enfants à s'adapter à un monde plus que jamais incertain. Personne ne connaît réellement les métiers de demain, ce que deviendra la planète ou la place que prendra la sécurité dans nos vies ou encore les réseaux sociaux vont-ils nous dévorer tout cru. Mais surtout, ne pas s'inquiéter devant les enfants. Il suffit de savoir parler aux enfants des grandes évolutions de notre époque. Mais alors comment? Et faire confiance aussi à ces extraordinaires capacités d'adaptation qu'ont les enfants et d'aptitude au bonheur. Nous allons en discuter avec nos invités. Marie Gilbert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences de l'éducation. Vous publiez le grand guide de l'éducation constructive. Vous avez aussi écrit sur l'apport de la philosophie dans la vie quotidienne. Mmh. Florence Millot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue. Vous publiez « Il y a des monstres sous mon lit. Aidez votre enfant à vaincre ses peurs ». Vous nous parlerez de ces peurs. Sont-elles différentes ou perçues différemment par les enfants et les adultes? Et quant à vous, les voisins, appelez-nous dès maintenant si vous vous demandez comment votre enfant va se débrouiller dans le futur et comment le rendre adaptable à toutes les circonstances. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr vos messages et vos questions sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Et puis en fin d'émission, ce sera la chronique de Marie-Rose Moreau comme un prolongement finalement à nos discussions. Peut-on être de bons parents?
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
Nous cherchons à joindre Eddy Hyacinthe à Cotonou, au Bénin, mais on a des difficultés de ligne téléphonique. Alors je vais me faire le porte-parole d'Eddy. Voici la question qu'il pose. Est-ce qu'il ne faut pas finalement laisser les enfants se débrouiller, découvrir eux-mêmes la vie, sans forcément trop leur parler dès qu'il y a un événement marquant dans le monde, comme un attentat par exemple? Voilà la question que pose Eddy. Je trouve que c'est une très bonne question, parce qu'on a longtemps pensé qu'il fallait... laisser les enfants grandir et se forger leur propre protection, finalement. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous abordez cette question-là, Florence Millot, peut-être?
D'accord, alors c'est vrai que la question est intéressante parce que du coup, on vient essayer de réfléchir à l'inverse des choses qu'on a en ce moment. C'est-à-dire qu'effectivement, je trouve qu'on parle beaucoup aux enfants. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui ne sont pas capables, malgré leur intelligence intellectuelle, j'ai envie de dire, au niveau affectif, ils ne sont pas capables de comprendre tout ce qu'on est en train de vivre. Nous, déjà en tant qu'adultes, on a du mal à comprendre, on est en train de réfléchir tous ensemble dessus, on en écrit des livres. Alors vous imaginez un enfant. Donc effectivement, pour répondre à la question de manière brève, plus l'enfant va trouver en lui ses propres solutions, mais surtout ses propres représentations du monde, plus il va pouvoir se sécuriser lui-même parce qu'il est capable de dialoguer intérieurement avec lui-même. Alors que si c'est l'adulte qui vient lui imposer sa vision des choses, en général déjà il ne comprend pas. Et surtout, du coup, il n'a plus les outils, mais au niveau intérieur, pour, même au niveau affectif, pour pouvoir dépasser un peu ses peurs.
Et vous, Marie-Gilbert, qu'est-ce que vous
Alors,
en pensez?
Oui, très intéressante aussi, je trouve, cette question. Donc, il ne s'agit absolument pas d'imposer aux enfants les peurs des adultes. Il ne s'agit absolument pas aux enfants de leur mettre le nez sur ce qui se passe si eux ne sont pas tout à fait au courant, surtout en bas âge. En bas âge, si quand il est quand même en capacité de parler, mais quand il est jeune, disons école maternelle, début de l'école élémentaire, si il n'est pas au courant de quelque chose, ce n'est pas à nous d'aller lui dire il s'est passé ça et de créer la peur.
Vous savez que les enfants sont au courant de tout aujourd'hui.
Voilà. Alors justement, dans la mesure où actuellement les enfants sont au courant. Quand c'est pas à la maison, c'est par les autres, c'est par tout le milieu scolaire, etc. Il faut être prêt à les aider à assumer les situations en fonction de leur âge. Et c'est pour ça que c'est important d'y penser.
À l'avance, avant d'avoir des questions compliquées de la part des enfants. Alors justement, Élie nous appelle de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Bonjour Élie.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tout le monde.
Où êtes-vous exactement?
La Kinshasa, en RDC.
C'est bien ça, d'accord. Élie, vous avez une question par rapport au sujet de notre émission, comment rendre les enfants adaptables dans un monde incertain?
Oui, comme je l'ai écrit en commentaire sur la page, il y a des questions auxquelles je ne parviens pas à répondre, comme vous venez de le dire. Mmh. Les questions des enfants sur la peur, par exemple les terrorismes et les fusillades parfois aux États-Unis là-bas. C'est pas moi aussi, j'ai peur. J'ai peur et comment arriver à faire mon affaire.
Quand vous dites que vous avez peur, Élie, vous avez peur de quoi exactement dans la vie?
Et ces événements-là, les événements qui arrivent.
De quels événements parlez-vous exactement?
Changement climatique.
Changement climatique, oui.
Terrorisme. Terrorisme, oui. Et lorsque je suis devant un enfant qui me pose la question, comment est-ce que c'est, pourquoi est-ce que ces choses arrivent?
Oui. Pourquoi ces choses arrivent? Oui. Et du coup, vous vous sentez désarmé finalement?
C'est ça, je me sens désarmé et rien à dire devant un enfant comme ça. Je ne sais pas quelle attitude prendre pour que l'enfant ne puisse pas avoir peur.
Et vous avez peur de montrer votre propre peur?
C'est ça, j'ai peur de montrer ma peur.
Qu'est-ce qu'on peut répondre à Élie? Merci en tout cas pour cette question qui est sûrement largement partagée sur la planète, hein, Élie. Merci de l'avoir posée. Oui. Florence Millot?
Oui, c'est vrai que c'est une question compliquée. Quand on se pose la question de pourquoi, en général, on n'a pas de réponse et c'est ça qui est angoissant. Après, tous les faits extérieurs, on ne peut pas faire grand-chose. Par contre, on peut essayer de travailler sur ses pensées, sur ses peurs intérieures et là, on a du pouvoir dessus. Que ce soit par rapport à vous, par rapport aux enfants, plus vous allez essayer de répondre avec l'enfant, plus vous allez essayer de vous répondre aussi à vous-même de manière, j'ai envie de dire, protectrice. Et c'est plus sur les pensées de peur, comment vous pouvez vous protéger de ces pensées et non pas des événements, que vous allez pouvoir dialoguer avec l'enfant. Mais encore une fois, aussi avec vous-même. Donc concrètement, poser à l'enfant, mais toi, pour te protéger dans ta tête, ça peut être avec l'imaginaire, ça peut être avec ses ressources à lui, comment toi tu pourrais te protéger de ses pensées quand tu sens que ça arrive, quand tu sens que ça monte, quand tu sens que tu as peur? Et moi-même, en tant qu'adulte, comment je peux faire ça? Et plus vous dirigez votre cerveau, entre guillemets, vos pensées vers des choses positives, mais pas de manière niaise, hein, j'ai envie de dire, vraiment.
Il ne s'agit pas de nier la réalité, par exemple, hein, des mauvaises nouvelles.
Non, mais c'est d'accueillir l'événement, mais dire comment moi, avec mes pensées, je peux me protéger. C'est-à-dire concrètement, vous avez une souffrance par rapport à la réalité, mais si avec vos pensées, vous y pensez tout le temps en boucle, alors vous rajoutez de la souffrance à la souffrance. Et c'est ça finalement qui nous fait le plus souffrir, parce que c'est comme si les événements rentraient à l'intérieur de nous en permanence. C'est un peu le souci qu'on peut avoir avec quand on a accès à trop d'informations en même temps dans le monde, c'est-à-dire qu'en permanence, vous avez un rappel de la réalité. Oui. Or, normalement, vous vivez, bien sûr, il y a des fenêtres sur le monde qui sont importantes, mais en permanence, vous ne pouvez pas être en contact, en tout cas avec vos pensées, avec cette réalité. Et c'est ça la petite différence qu'on peut faire pour éviter de répondre à cette question. Pourquoi? Puisque de toute manière, personne n'a la réponse.
Marie Gilbert, c'est clair. Hein, on vit aujourd'hui dans un monde qui fabrique de l'anxiété.
Voilà. Alors, justement, les peurs dont il est question, peur des catastrophes climatiques, peur du terrorisme, ce sont, disons, des peurs ambiantes. Et les peurs ambiantes, il faut voir qu'elles prennent appui sur la réalité, mais après elles sont gonflées, voire instrumentalisées, répandues, d'une manière qui déborde parfois l'événement. Alors, évidemment, il y a tout un environnement qui finit par imprégner l'enfant et dont la famille peut le préserver. Alors, par exemple...
Mais sur le risque climatique, le réchauffement climatique et le terrorisme dont parlait Élie, vous, dans votre livre, vous apportez des réponses très claires. Vous dites qu'il faut enseigner le collectif pour montrer que tous ensemble, on sera plus forts pour apporter des idées et s'adapter au changement climatique.
Oui.
On peut s'adapter avec de la vigilance pour le terrorisme sans que cela devienne complètement anxiogène. Donc, vous apportez de vraies réponses là-dessus.
Oui, voilà. Alors, justement, ce qui est important, d'une part, c'est de dégonfler la peur ambiante. Parce qu'il y a toute une... On est dans une culture de la violence. On est dans une culture anxiogène. Et il faut essayer de ne pas plonger l'enfant dans cette atmosphère. Et là, la famille peut quelque chose. C'est-à-dire que par rapport au risque climatique, par exemple, il s'agit d'éduquer l'enfant. L'important dans ces risques-là, c'est de sortir du sentiment d'impuissance. Parce qu'alors, c'est le fatalisme, c'est une souffrance impalpable. Et la famille... quelque chose. Par exemple, contre les risques climatiques, il s'agit de montrer à l'enfant qu'il peut faire quelque chose pour éviter que, de sa part, il y ait une sorte de complicité avec ce qui se passe
actuellement. Même si cette action est en réalité souvent bien symbolique. Ça peut être, par exemple, de ne pas gaspiller l'eau ou des choses comme
voilà,
ça.
Voilà, hein. Les éco-gestes, ça peut être...
Ça aide l'enfant à reprendre la main, finalement, intellectuellement, sur cette peur.
Oui, et ce qui est important pour que l'enfant ait envie d'agir, c'est d'ancrer son action dans l'amour de la nature, l'aider à renouer avec la nature. Et quant au risque du terrorisme, à ce moment-là, sortir du sentiment d'impuissance, c'est difficile, mais c'est possible. Parce qu'il faut apprendre à l'enfant il faut lui demander quelle leçon tirer de tout cela. Et la première leçon, c'est de développer ses qualités humaines, de sortir de l'inhumain dans son quotidien.
Florence Millot, sur les peurs qui sont aujourd'hui très prégnantes chez les enfants par rapport à la violence qui est vue à l'international, dans les médias, et que les images que reçoivent les enfants, qu'il s'agisse d'ailleurs des crises migratoires comme du terrorisme. Qu'est-ce que vous proposez comme réponse concrète pour les enfants ?
Alors, par exemple, quand l'enfant regarde la télé ou regarde les images, c'est très important que le parent puisse accompagner l'enfant en même moment qu'il regarde l'information, par exemple, ou même un film, pour que l'enfant puisse parler de ses émotions, parler de ce qu'il vit. Parce que souvent, l'enfant fonctionne par mimétisme. Donc, s'il voit son parent un peu passif ou regarder sans trop rien dire, parce qu'il n'a pas envie non plus de faire peur à son enfant, l'enfant va regarder son parent et va rien dire. C'est-à-dire que la peur, elle va rester à l'intérieur. Que si le parent ose parler aussi de ses sentiments, donc son monde intérieur, ce que l'enfant ne voit pas, l'enfant va pouvoir aussi, par effet de mimétisme, pouvoir parler de ce qui lui fait peur, et du coup, il y a quelque chose qui va sortir entre guillemets de lui-même. Mais la majorité du temps, les enfants prennent les images, les subissent, mais n'en parlent pas vraiment derrière.
En réalité, les enfants disent rarement, mais comment on va se sortir de cette situation? Comment moi je vais faire quand je serai plus grand? Ils ne le formulent pas réellement, c'est très intériorisé, non? Est-ce que je vais réussir, maman, papa, à m'adapter à cette situation-là? C'est rarement formulé chez les enfants.
Alors, c'est pas formulé, et en même temps, quand on leur pose la question, moi je travaille avec les enfants, il suffit juste de poser 2-3 questions. Qu'est-ce qui te démotive à l'école? Qu'est-ce qui te fait peur? Et honnêtement, 50% dans les enfants qui ont des difficultés à l'école vont dire, mais de toute façon, j'ai peur d'être clochard, j'ai peur d'être à la rue, j'ai peur d'être dans la misère. Donc parfois, ça me bloque tellement que je reste bloquée au temps présent. Finalement.
C'est donc là que doit démarrer la discussion et qu'il faut chercher des outils en tant que parent pour...
C'est-à-dire vraiment aller chercher le fantasme qu'il y a chez l'enfant, parce que même s'ils ne disent rien, on se rend compte quand même qu'ils comprennent beaucoup de choses, et cette peur de l'avenir, ils l'ont quand même. Mais ils vont pas
Si on fait la liste des inquiétudes des enfants sur leur capacité à s'adapter, donc peur du chômage, vous avez cité, peur du changement climatique, peur du terrorisme.
Voilà, les attentats, tout ce qu'ils peuvent comprendre du monde sans finalement pas comprendre grand-chose, entre guillemets.
Alors, comment préparer son enfant à s'adapter à notre monde complexe d'aujourd'hui? Marie Gilbert, vous évoquez dans votre livre des matériaux antisismiques pour traverser les turbulences, on va en parler. Et vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71.
J'entends ma sœur dans sa chambre qui écoutait les Cure. J'entends nos cris d'enfants quand on sortait dans la cour. J'entends la sonnerie du collège qui annonce la fin de l'heure. J'entends toujours beaucoup plus de fou rire que de pleurs. J'entends les portes du métro et la cohue de la ligne 13. J'entends l'accent des clandos qui vendent des frites merguez. J'entends les piliers de bar qui philosophent et théorisent. J'entends le clocher de la mairie qui sonne le temps des cerises. Est-ce que c'est grave, docteur? Tous ces bruits dans mon esprit, est-ce un trop plein de souvenirs et mon cerveau qui réagit? Est-ce que ça doit me faire peur? En fait, je pense que j'ai compris. Tous ces murmures, c'est juste des acouphènes de nostalgie. À l'ancienne et les premiers phrases hip-hop. J'entends les bombes de peinture, je voulais taguer avec mes potes. Mais j'entends leur ricanement devant mes tags pathétiques. Je suis retourné faire du sport, j'avais un art plus athlétique. J'entends des terrains en parquet, des ballons qui rebondissent, des clameurs en paquet et des semelles qui crissent. J'entends siffler les arbitres et chanter dans les vestiaires. J'entends gueuler l'entraîneur comme si le match était hier. J'entends les vannes les plus folles sur les playgrounds de Marville. Les champions de France de Chambrette habitaient tous dans ma ville. Sur ces terrains en bitume, j'ai usé tellement de semelles. Je pouvais jouer au clair de lune et ça 7 jours par semaine. ensemble. J'entends le bel accent corse chaque été loin de la grisaille. J'entends des chants polyphoniques lever du jour à mon rosaille. J'entends trinquer les mauresques et tous ces liens qui se soudent. J'entends qu'on m'appelle Fradé, j'entends Patch et Saloud. Est-ce que c'est grave docteur, tous ces bruits dans mon esprit? Est-ce un trop plein de souvenirs et mon cerveau qui réagit? Est-ce que ça doit me faire peur? En fait je pense que j'ai compris. Tous ces murmures c'est juste des acouphènes de nostalgie.
Acouphènes, grand corps malade, la chanson aussi peut aider les enfants à prendre de la distance pour mieux se construire, mieux s'adapter dans le monde d'aujourd'hui, ô combien compliqué, mais les artistes ont ce génie hein, toujours de raconter le monde autrement. Marie-Gilbert, vous parlez de matériaux antisismiques pour traverser les turbulences. Alors, quelles turbulences? Vous parlez des turbulences dans la société, dans la famille, et puis quels sont ces matériaux antisismiques?
Alors, pour justement affronter, disons, les fluctuations sociales, l'enfant, il faut donner à l'enfant, quand on le peut, quand je dis il faut, c'est en fonction de chacun, un bon ancrage dans la sécurité affective et l'amour sans condition des parents, quelle que soit leur situation sociale, économique ou autre, c'est quelque chose que tous les parents peuvent donner. L'amour sans condition, d'une part, et ensuite, développer l'estime de soi de l'enfant, sa confiance en lui. Et ça, c'est son ancrage. Et la famille, là, peut faire quelque chose de très important pour l'enfant. Alors, ensuite, c'est important aussi d'entendre les émotions de l'enfant, de l'écouter, de le laisser s'exprimer. Et une fois qu'il a pris conscience au niveau émotionnel, qu'il a pu se décharger de ce qu'il habite, quelle que soit la situation, ce qui me semble très important, c'est de l'aider à sortir de l'émotionnel et l'aider à sortir de ces émotions qui finalement peuvent vraiment noircir son paysage par la réflexion, d'une part, la réflexion qui permet de prendre de la distance et puis de passer du cas individuel au cas, disons, à la condition humaine, disons.
Et prendre de la distance aussi par rapport à l'affection des parents, parce que vous dites, bon, il faut donner aux enfants un amour inconditionnel, ça, c'est ce qui va, ça va être la base, c'est ce qui va les aider à affronter le monde. Mais vous dites aussi qu'il faut favoriser une forme d'indépendance affective.
Tout
alors, comment savoir? Les parents se demandent toujours, est-ce que je donne trop d'affection, pas assez? Comment savoir si l'enfant a sa dose d'affection nécessaire pour affronter les changements du monde?
Oui, et c'est là que les parents, justement, c'est un peu délicat pour les parents, mais c'est tout à fait faisable. D'une part, il faut voir en fonction de l'âge de l'enfant. Quand l'enfant est jeune, il a vraiment besoin d'être qu'on réponde à ses besoins. Il a vraiment besoin de trouver l'estime de soi dans le regard des parents. Mais au fur et à mesure qu'il grandit, au fur et à mesure qu'il prend de l'indépendance...
Il ne cherche plus quoi que ce soit dans le regard de ses parents.
Il a besoin d'autre chose. Toujours, il en aura toujours quand même besoin, même à l'adolescence. Mais il a besoin d'autre chose. Et il a besoin de découvrir en lui-même les racines de l'estime de soi.
Et d'ailleurs, vous dites qu'il faut apprendre aux enfants à chercher la terre ferme sous leurs pieds. Qu'est-ce que c'est que cette terre ferme? C'est une jolie métaphore, mais quelle est-elle, cette terre ferme?
La terre ferme, c'est peut-être d'ancrer leur estime d'eux-mêmes dans l'expérience. Leur expérience personnelle. Parce que, bon, si vous dites à un enfant, c'est sûr que tu es capable de prendre le train tout seul. Il ne fait pas l'expérience, peut-être qu'il n'y croit pas. Mais si un jour, vous lui faites prendre le train tout seul, le jour où il se retrouve sur le quai de la gare à destination, là, il se dit « je suis capable ». Voilà.
Est-ce que vous êtes d'accord avec cette façon de voir les choses de votre côté, Florence Millot, sur l'expérience, au risque parfois de prendre des risques d'ailleurs et de se faire une grande frayeur?
Oui, bien sûr. Je rajouterais juste avant que par rapport à l'écoute, ce qui est important quand on est parent, c'est vraiment comprendre qu'écouter un enfant, c'est surtout lui poser des questions. C'est surtout pas être passif en laissant l'enfant se débrouiller parce que parfois il sait pas en lui-même comment chercher. Donc plus le parent pose des questions, un peu comme s'il tirait le fil à l'intérieur, il lui demande concrètement, par exemple cette expérience du train, peut-être que demain tu essaieras de le faire tout seul.
Procéder par étapes. Alors vous restez avec nous, on se retrouve juste après le flash dans 3 minutes. Comment rendre les enfants adaptables au monde complexe de...
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Éduquer son enfant pour qu'il soit adaptable, n'est-ce pas finalement le plus important aujourd'hui? On en parle, puisque chaque vendredi on parle de questions d'éducation. Avec nos invités Marie Gilbert, docteur en sciences de l'éducation, vous publiez le grand guide de l'éducation constructive. Florence Millot, vous êtes psychologue et vous publiez Il y a des monstres sous mon lit, aider votre enfant à vaincre ses peurs. Et puis en fin d'émission, la chronique de Marie-Rose Moreau, peut-on être de bons parents? Alors je vous lis des messages qui nous sont parvenus sur les réseaux sociaux qui soulignent la question du temps aussi dans la façon d'être parent, de prendre du temps, prendre du recul, donc prendre du temps. Et on n'y pense pas forcément. Janvier, qui est à N'Djamena, nous dit les parents ont du mal à parler avec leurs enfants sur les dangers de la vie par manque de temps. Moi, j'ai l'impression, nous dit Janvier, que les enfants se rendent eux-mêmes capables d'affronter les situations de la vie. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou Didier, à Cotonou, souligne aussi ce problème du temps. Les parents devraient consacrer un peu de temps à leurs enfants en leur donnant des conseils face à ces problèmes. Mais quels conseils? Donc vous voyez bien que les auditeurs sont bien conscients qu'il y a un problème avec le manque de recul dans la façon d'éduquer les enfants. Et puis on a aussi un auditeur qui souhaite nous parler en direct, Dia, qui est à Niamey au Niger. Bonjour Dia, soyez le bienvenu.
Bonjour.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Et pour tous les autres, c'est le numéro de téléphone qu'il faut composer au standard et être en ligne avec Sophia qui reçoit vos appels. Dia, on vous écoute. Vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins.
Oui, bon, j'ai parlé sur la page Facebook. Peut-être que moi, je repose tout sur la base de l'éducation. Quoi. Mm-hmm.
Vous souhaitez vous exprimer en fait et bien souligner la taille des fratries dans votre pays. Vous avez 26 ans, vous êtes dans une grande fratrie.
Oui.
Et du coup, quelle est la question que vous vous posez en fait, Dia?
Bon, moi, la question c'est comment vraiment faire pour vraiment entretenir avec les petits, bien, les enfants, les petits frères, de leur aborder sur le sujet du terrorisme et de la technologie, en fait.
Le terrorisme et la technologie, oui. Très intéressant, on en parlait du terrorisme en première partie d'émission. Mais vous parlez beaucoup avec vos frères et sœurs?
Allô?
Vous parlez beaucoup avec vos frères et sœurs?
Oui, je parle bien avec eux.
Et ils vous posent des questions auxquelles parfois vous avez du mal à répondre?
Bon. En fait, moi, particulièrement, j'arrive un peu à leur expliquer quand ils me posent des questions.
Oui. Merci, Dia, en tout cas, de nous avoir appelé sur la technologie. Les enfants baignent là-dedans, donc on est pratiquement dans l'ordre de l'inné, hein, maintenant, dans les générations qui arrivent. Et en même temps, ils se rendent bien compte que le monde a radicalement changé à ce propos, Florence Millot.
Oui, effectivement, je voulais juste rebondir sur le témoignage de la personne qui vient de parler. Parfois, l'adulte ne peut pas répondre à toutes les questions et encore une fois, vous renvoyez à vos frères et sœurs ou aux enfants quelle est leur réponse à eux. C'est beaucoup plus efficace parce que sinon, vous êtes parfois un peu à côté et puis vraiment, on ne sait pas répondre à toutes les questions. Par contre, si l'enfant cherche lui-même une tentative de réponse, c'est beaucoup plus intéressant que d'essayer de répondre à tout.
Ah oui, là, je suis tout à fait d'accord. C'est justement comme ça que l'enfant va progresser. Et il pose ses questions, et au lieu que l'adulte donne sa propre réponse, il peut poser une nouvelle question qui va aider l'enfant à chercher en lui-même sa réponse. Et c'est comme ça qu'intérieurement, il va se fortifier en prenant conscience qu'il est capable de penser, qu'il est autonome à ce niveau-là.
Il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu un adolescent dire « Oh là là, moi j'aimerais bien parfois mener une vie simple. » Alors je pose la question, mais qu'est-ce que c'est qu'une vie simple? C'est une vie où il n'y aurait plus de technologie. Alors, c'est intéressant de la part d'un adolescent qui est tellement à l'aise avec ces technologies-là, qui ne lui pose pas de problème, en tout cas en apparence.
En apparence. Mais il y en a quelques-uns qui le pensent, mais la grande majorité fonce tête baissée dans, je dirais, c'est une technique. Et trop souvent dans les familles, on a l'impression qu'un enfant compétent dans ce domaine, c'est un enfant éduqué. parce que on se plie à certaines normes d'un système de rentabilité, de compétition, de culte de la performance, et on peut avoir un enfant qui est très fort sur ce plan-là, et même plus fort que les parents, bien sûr, donc, qui...
Ça, c'est la réalité, oui.
Qui prend une espèce de pouvoir du savoir-faire, alors qu'il n'est pas éduqué, il n'est pas éduqué aux valeurs humaines, il n'est pas éduqué au respect. Et là, bon, eh bien, au niveau éducatif, il y a une divergence.
Est-ce que les nouvelles technologies aujourd'hui peuvent créer, paradoxalement, malgré l'aisance des enfants, une forme d'anxiété ?
Si et seulement si l'enfant va utiliser cette technologie ou les écrans comme une fuite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie de réduire au niveau des écrans parce que ça nous fait peur, mais en même temps, si on donne rien à l'enfant en échange, si on le laisse tout seul et qu'il n'a pas forcément d'imagination, parce qu'à force d'être confronté aux tablettes, il perd un peu ce côté actif, donc il ne sait pas quoi faire, il s'ennuie, voire parfois il s'angoisse réellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prive l'enfant de tablette, en tout cas chez le petit, il peut vraiment être angoissé parce que vraiment, il se sent tout seul. Déjà avec le parent qui ne s'occupe pas toujours de lui parce qu'on n'a pas toujours le temps, mais surtout dans sa tête. La différence, c'est qu'une fois que l'enfant peut jouer, peut se construire un monde intérieur, un imaginaire et a cette capacité d'être seul, alors il peut utiliser l'écran. Mais si l'écran est utilisé beaucoup trop jeune et que l'enfant n'a pas eu cette étape, on va dire, intérieure pour se construire et répondre à ses questions lui-même ou se construire un univers lui-même, alors ça devient anxiogène. C'est pas tant la tablette le problème. C'est plutôt que le parent, sans s'en rendre compte, par souci de facilité, on peut bien le comprendre, va préférer, un peu comme un babysitter, entre guillemets, lui donner une tablette à 2 ans, 3 ans, 4 ans.
Tout à fait.
Donc c'est avantageux sur le coup, mais quand l'enfant va grandir, 6, 7, 8 ans, comme il n'a pas pu se construire son monde intérieur avec cet imaginaire et qu'il est bloqué, entre guillemets, dans ce monde irréel, alors là, ça peut devenir anxiogène. Oui. Mais ce n'est pas la tablette en soi qui est anxiogène.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, Florence, et je pense qu'on va rejoindre la question du temps que posait notre auditeur, c'est-à-dire que il y a beaucoup
le
de parents
recul et le temps, oui.
qui n'ayant pas beaucoup de temps se déchargent un peu quasiment de l'éducation des loisirs et de l'éducation de l'enfant sur les écrans. Un enfant qui est jeune, si on lui donne trop tôt des tablettes, des jeux vidéo, etc., il va se replier un peu sur ces techniques-là et il n'aura pas assez de temps à la fois pour s'exprimer en famille, pour développer aussi tout ce qui est corporel, tout ce qui fait que son développement va être complet. Et au niveau... Oui.
Et justement, très concrètement, vous dites, Marie-Gilbert, que éduquer un enfant à l'adaptabilité, c'est d'abord diversifier les apprentissages. Mais pour un parent, les apprentissages, c'est l'école,
oui,
le scolaire.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par diversifier les apprentissages ?
Alors, il y a l'apprentissage scolaire. Bon, d'une part, il ne faudrait pas créer une scission entre les matières importantes et les matières moins importantes. Donc, il faut valoriser tout ce qui est proposé, d'une part. Et d'autre part, il y a une vie en dehors de l'école. Et souvent, l'enfant, même, et peut-être parce qu'il ne réussit pas toujours à l'école, va s'exprimer dans d'autres univers. Alors, lui faire faire à l'extérieur des activités qui vont lui permettre de s'exprimer d'exprimer d'autres tendances, mais bien sûr sans le surcharger. Et c'est là le doigté des parents.
À quoi vous pensez, par exemple ?
Eh bien, il peut y avoir une activité sportive, une activité artistique, il peut y avoir aussi... le contact avec la nature qui est très important. Donc, toutes ces choses-là vont équilibrer le paysage scolaire de l'enfant. Et il y a la vie de famille, parce qu'alors, justement, avec les écrans, il y a quasiment presque souvent plus de partage dans les familles. Et plus de temps accordé, plus d'attention accordée à l'enfant, parce que chacun est devant son écran. Il y a les enfants et les parents aussi qui sont devant le leur.
Alors en même temps, on dit beaucoup... Oui, Florence Millot,
je voulais rajouter par rapport à ce que vous avez dit, ce qui est important aussi avec toutes ces activités effectivement corporelles, artistiques, c'est que la vision du parent et de l'enfant converge vers une vision de l'avenir qui est aussi positive. Même si elle est rêvée, même si c'est juste juste un espoir, c'est fondamental. Parce que dans les jeux vidéo, c'est aussi ça que les enfants recherchent. Ce sont des héros, il y a des couleurs partout, il y a vraiment quelque chose où ils se sentent en confiance. Donc comme ils n'y arrivent pas forcément dans le réel, ils vont le chercher ailleurs. Mais ce n'est pas forcément que le jeu vidéo qui peut l'apporter. Mais si on a une vision positive de l'avenir, peu importe, même si entre guillemets ce n'est qu'un rêve, c'est ça qui va permettre à l'enfant de s'inscrire dans le groupe, dans les
tout
activités.
Oui.
Sinon, il a tendance parfois encore avec tout ça à se replier en disant finalement je vais créer ma bulle sensorielle dans le jeu vidéo, alors que cette bulle sensorielle, on peut la créer à l'intérieur de soi.
Tout à fait.
De manière beaucoup plus douce, comme parlait cet adolescent, et de manière beaucoup plus simple.
Oui, je suis bien d'accord que l'enfant, finalement, s'il est bien accompagné, c'est une façon aussi de l'aider à s'adapter à l'univers de ses pairs, de le laisser avoir accès à toute cette technologie, mais il faut qu'il soit accompagné, et surtout, il faut que dans le temps, il puisse faire d'autres choses à côté. Ça, c'est fait.
La psychologie collective des sociétés dans lesquelles grandissent les enfants compte beaucoup. En Europe, particulièrement en France, on est quand même dans une société assez pessimiste, où les Français pensent beaucoup que la vie de leurs enfants sera plus difficile que la leur. C'est pas le cas dans de nombreux pays en développement, où la majorité des citoyens pensent qu'au contraire, la vie de leurs enfants sera moins difficile que leur propre vie. Même si, on l'a bien entendu avec nos auditeurs, ils sont quand même assez inquiets, hein, et les médias créent aussi des inquiétudes du monde extérieur sur leur propre vie. Mais aujourd'hui, on entend beaucoup les parents dans les pays riches dire « il faut que tu sois le meilleur, il faut être dans la compétition, et en même temps, sois toi-même ». Comment s'y retrouver pour un enfant ? Comment s'adapter avec des injonctions paradoxales ?
Oui, c'est tout à fait vrai. Et dans les familles, alors, il y a beaucoup d'injonctions paradoxales. Eh bien, sois le meilleur, c'est pas la bonne formule. Je pense qu'il vaudrait mieux
dire... Il ne faut pas dire ça à son enfant,
sois le meilleur. Il vaudrait mieux dire, fais un progrès par rapport à ce que tu as fait avant. Par exemple, à l'école, soit le meilleur, soit le premier, soit meilleur que le voisin. Ça crée un stress, non seulement au niveau des résultats scolaires, mais au niveau relationnel. Parce que l'enfant, finalement, voit des ennemis dans les autres.
Oui, mais on, si on ne supprime pas les exigences, non plus.
Non, alors, non, il ne faut pas supprimer les exigences, parce que si on supprime les exigences, l'enfant va stagner. Or, l'éducation, c'est un mouvement, il faut qu'il évolue. Voilà. Mais si on lui dit, la dernière fois, tu as eu 10 sur 20, tu peux peut-être avoir un point de plus la prochaine fois. Il va travailler par rapport à lui-même. Parce que finalement, tout est question de recentrage de l'enfant sur lui-même.
Florence Millot, est-ce qu'il faut dire en permanence à l'enfant qu'il va devoir s'adapter, que le monde va être de plus en plus compliqué, et lui faire prendre conscience de cette nécessité de développer ce talent-là ou pas ?
Alors ça, c'est une question qui est purement adulte. Jamais un enfant va se poser cette question-là en ces termes-là. L'enfant, il fonctionne par mimétisme et surtout, l'enfant, il vit au temps présent. Si on laisse l'enfant, comme monsieur disait tout à l'heure, se débrouiller, il vit au temps présent. Donc, il n'est pas constamment projeté dans le futur en se demandant son avenir, etc. C'est l'adulte qui vient insinuer ça. Mais sinon, l'enfant, de manière naturelle, s'adapte très très vite. On voit, juste si on prend l'exemple de la marche, un enfant va se relever 500 fois en moyenne sur l'année ou l'année et demie quand il va commencer à marcher sans qu'on lui demande de rien. Il est motivé naturellement, il essaye naturellement, il n'a pas peur de ne pas y arriver.
À l'adolescence, les échecs, c'est un peu différent, non ?
Bien sûr, mais si c'est accompagné par l'adulte, encore une fois, si l'enfant peut exprimer son expérience et qu'elle est accueillie et que l'adulte est là un peu comme un filet de sécurité, l'adolescent va traverser cette épreuve beaucoup plus facilement que si le parent commence à le juger et il est complètement coupé entre guillemets de sa famille.
Alors là, j'ai une question, c'est pour Marie Gilbert, d'un auditeur. Je vous lis son message, si vous voulez bien, Marie. C'est Emmanuel François qui nous écrit de Port-au-Prince en Haïti. Les parents sont dans un besoin urgent d'enseigner à leurs enfants le stoïcisme, qui est une philosophie qui demande de la force et du courage face à des situations néfastes, prendre les modèles des grands hommes qui se sont adaptés à toutes les circonstances, enseigner à l'enfant que la peur est un chantier, nous dit Emmanuel, qui conduit souvent vers l'échec et que la peur a peur de l'action. Emmanuel François, ça philosophe beaucoup, hein, Port-au-Prince. Et il conclut, enseigner à l'enfant d'agir avec prudence, bien que de nos jours, les enfants enfants sont vraiment têtus.
Oui, tout à fait. Je suis...
Alors, le modèle, les modèles peur, des grands hommes, des héros.
Oui, alors, l'enfant a besoin de modèles. L'enfant a besoin que de voir qu'il y a des hommes et des femmes qui sont arrivés à s'accomplir, à accomplir pleinement leur humanité. Et ça, ça lui donne envie de développer pleinement son humanité. D'autre part, la peur, il y a des peurs. La peur en général, il faut préciser, il y a des peurs qui sont salutaires. Si votre enfant a peur de traverser la rue parce qu'il y a beaucoup de circulation, c'est une peur qui le sauve. Donc, elle préserve, c'est de la vigilance. Maintenant, s'il a peur de choses qui dépendent de son imagination, il appartient aux parents de lui refaire prendre contact avec la réalité.
Oui.
Et après, il y a alors le mot stoïcisme. Je reviens. Le mot stoïcisme implique une notion d'effort. Moi, je suis bien d'accord avec la notion d'effort, avec une notion de pénibilité. C'est difficile. C'est vrai que des fois la vie est difficile, mais justement, il faut donner à l'enfant un chemin qui ne soit pas pénible pour fournir l'effort. Essayez de lui faire fournir des efforts avec le maximum de joie de vivre. Il ne faut pas la sacrifier. Et puis, je parle d'un optimisme constructif, c'est-à-dire être positif. Et l'effort doit être fourni, mais pas...
L'effort valorisant et pas l'effort douloureux, finalement.
Oui, voilà, hein. Exactement.
Florence Millot, c'est possible, ça, quand on cherche à dépasser ses peurs. Les derniers conseils avant qu'on se quitte.
Oui, effectivement, plus on a peur, la personne disait la peur empêche l'action, mais au contraire, plus on fait des toutes petites actions, plus la peur diminue. Mais c'est important de toujours se replacer un petit peu, comme on disait au début d'émission, l'enfant, ou peu importe, l'adulte, dans quelque chose de plus grand, plus poétique, quelque chose de plus grand que nous. Et c'est là où justement la figure du héros va prendre son sens. Donc gardez vraiment cette poésie de la vie, peu importe la forme qu'on y donne, mais pour pas rester bloqué sur une réalité qui pourrait être un petit peu mortifère ou angoissante, toujours l'associer à quelque chose de beaucoup plus poétique.
J'aime bien. Alors le mot poésie de la vie, moi je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Poésie de la vie, c'est le fait de toujours parvenir à resituer l'instant présent dans le mouvement de cette vie. Et parce que la vie, c'est un mouvement. Chaque fois qu'on se fige sur une peur, sur une anxiété, on n'a pas une vision globale de l'existence. Donc, resituer l'instant dans le mouvement de la vie, c'est apprendre à l'enfant, après la pluie, le beau temps, finalement. C'est-à-dire qu'il y a l'instant qui peut être douloureux, et si on s'enfonce dans cet instant, on ne voit plus l'avenir. Et là, on plonge et c'est anxiogène. Et c'est souvent ce qu'on fait actuellement, parce que les adultes, ça vient des adultes, ils vous disent, ils sont fatalistes. Et devant les enfants, ils disent « Oh là là, quel monde, où va l'humanité ?»
Les parents oublient beaucoup quand ils parlent entre eux ce qu'entendent les enfants.
Hein,
et sur quoi ils vont se fonder ensuite pour se construire eux-mêmes d'ailleurs.
Tout à fait. Alors, il y a dans les conversations, quand on parle devant l'enfant, quand on parle à l'enfant, on lui communique tout le temps une vision fataliste. Alors, c'est bien que du moment qu'on a mis un enfant au monde, on pense qu'on a la vie à lui donner.
Ça veut dire que pour tous les pessimistes et tous les fatalistes, il faut absolument changer sa personnalité pour aider ses enfants à aller de l'avant, hein, si j'ai bien compris. Travailler d'abord sur soi en tant qu'adulte.
En un mot, on ne pourra pas changer le monde extérieur, mais on pourra changer son monde intérieur.
Merci à toutes les deux. Marie Gilbert, vous publiez Le guide de l'éducation constructive, c'est paru aux éditions Erol. Et Florence Millot, Il y a des monstres sous mon lit, aidez votre enfant à vaincre ses peurs aux éditions Hachette. Dans quelques instants, on retrouve la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau, parents, enfants d'ici et d'ailleurs. Merci à toutes les deux d'être passées par le studio.
Merci à vous. Train, train, it's come again. Chicken by the back to its pain. Come out, but it grew back. A heavy stone out, paint black. I don't know if I can love again.
out of me. Without a name.
Asaf Avidan, chez 7 milliards de voisins, je vais y arriver. On l'aime beaucoup ce chanteur. A Man Without a Name. Vous écoutez RFI du lundi au vendredi, chez 7 milliards de voisins. Tout de suite, la chronique de Marie-Rose Moreau.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs, c'est notre rendez-vous hebdomadaire avec la pédopsychiatre Marie-Rose Moreau. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
Chaque semaine, une question, parfois très vaste, parfois incongrue, parfois surprenante, mais en tout cas qui donne toujours du fil à retordre aux parents dans leur relation avec les enfants. Aujourd'hui, c'est une copie de philosophie. Peut-on être de bons parents ? C'est vrai que depuis le début de ce rendez-vous hebdomadaire avec vous, Marie-Rose, on parle de situations qui sont très différentes, parfois difficile. Est-ce qu'il y a finalement une seule manière d'être parent ? Est-ce qu'on peut être un parent universel ?
Il faut le dire très sincèrement, être parent à Bamako, Kinshasa ou Paris, c'est un métier difficile. Et ça a beau être le plus vieux métier du monde, comme on dit parfois, c'est extrêmement difficile. Et Freud, le fondateur de la psychanalyse, disait que c'était un métier impossible. Mais encore plus complexe, il n'y a pas un seul modèle de parent, il n'y a pas un parent universel.
Il y a néanmoins des éléments qui permettent de forger un bon parent, non ?
Un bon parent aux yeux de qui c'est-à-dire, et puis qu'est-ce que ça fait aux enfants ? Parce qu'au fond, un bon parent, c'est un parent qui arrive à bien élever ses enfants, à leur transmettre les choses importantes et à développer les compétences des enfants. Or, si on regarde autour de nous, à la fois dans le temps et dans la géographie, par exemple, comment on s'occupe d'un tout petit, d'un bébé ? Ici, on regarde beaucoup les enfants. On considère que le regard, c'est l'élément le plus structurant. Donc, on le regarde beaucoup. On lui parle énormément. On lui dit, je fais ci, je fais ça.
Ce sont les psys qui sont passés par là. Ouais,
exactement. Mais la psy, elle est inscrite dans la société. Donc, effectivement, on parle, on prépare les enfants. En revanche, on les met dans des poussettes ou dans des berceaux. Et on les touche très peu. Et on les stimule très peu, et ce qui fait qu'on dit qu'on a des interactions proximales avec nos bébés, et ça donne des bébés mous.
D'accord, les bébés en Europe sont des bébés mous.
Ils sont très très mous. Et si on regarde en Afrique de l'Ouest, par exemple, ou en Asie du Sud-Est, à ce moment-là, les mamans, au contraire, elle se méfie énormément du regard. Elle considère que le regard, c'est un mauvais œil, il y a des choses difficiles. Il faut pas trop regarder les bébés, il faut pas trop non plus dire qu'ils sont beaux. Donc il faut faire attention, il faut pas leur parler trop non plus. En revanche, on les porte, on les masse, on les stimule, on les berce, on les met sur son dos, on les met sur soi, on dort avec eux. Et les bébés, ils sont durs, mais bien plus durs que nos bébés, parce qu'ils ont des interactions très proximales avec leur mère. Donc, vous voyez, vous avez là deux styles totalement différents.
De quoi en perdre son latin pour un parent ? On se dit,
exactement.
Où je me situe, comment faire pour ne pas se tromper vis-à-vis de son enfant ?
Et imaginez même, vous migrez, vous êtes dans la région de Bamako, vous arrivez à Paris, vous comportez comme une bonne mère, c'est-à-dire vous stimulez beaucoup le bébé sur le plan moteur, mais vous ne le regardez pas, vous lui parlez peu, vous allez...
Donc on vous dit que vous ne l'aimez pas.
Bien sûr, vous allez dans un
dispensaire, dans une consultation, on dit, regardez cette mère qui ne regarde pas son bébé.
Et qui ne lui parle pas.
Et qui ne lui parle pas, encore plus. Et donc, c'est une mauvaise mère. Au contraire, c'est une maman qui est en train de préserver et qui est en train de faire le mieux possible pour son bébé. Et son bébé sera un bébé qui va bien se développer. Donc, vous voyez, non seulement, et c'est un problème philosophique, comme vous disiez en introduction, mais c'est un problème très concret, c'est qu'il y a tellement de manières de bien s'occuper des bébés qu'on ne peut pas juger l'autre et dire que l'autre ne le fait pas bien.
Donc finalement, être un bon parent, il suffit d'être en accord avec sa culture, avec sa société? Ça ne serait que ça?
Non, ce n'est pas que ça. C'est être d'abord un bon parent à ses yeux, à soi, être en accord avec la transmission et puis s'adapter à son bébé. Donc c'est une sorte d'alchimie entre tout ça. Et effectivement, à partir de là, on comprend qu'on ne peut pas juger les autres, mais qu'on peut augmenter les compétences de chacun.
Merci Marie-Rose Moreau. Vous avez publié, entre autres, « Aimer ses enfants, ici et ailleurs » aux éditions Odile Jacob. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique, Marie-Rose. Pourquoi les enfants ont besoin de rêver et de s'ennuyer? Beaucoup de choses à apprendre pour les parents. Merci à vous tous, Sophia Bédard, Baptiste Madinier, Romain Dubrac, c'est toute l'équipe qui signe l'émission chaque jour. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, à la rubrique Magazine, et nous retrouver aussi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Lundi, 7 milliards de voisins, je laisse le micro à Charlie Dupio. Elle vous propose de réagir, mesdames, à ce que l'on appelle désormais la charge mentale. Les mamans débordées qui doivent penser à tout en permanence. Vous avez donc la parole, vos témoignages, vos questions profitent à tout le monde et surtout aux hommes. Alors appelez le standard dès maintenant au 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous les messages sur les réseaux sociaux. À lundi les voisins.